des écrivains, une émission proposée par Christophe Onodibio.
Bonjour, il est 17h et c'est le temps des écrivains, le magazine littéraire de France Culture. Cette semaine, un dialogue entre deux auteurs qui nous parlent de journalisme, deux écrivains qui sont vraiment écrivains, mais qui donnent aussi, dans cet exercice journalistique, l'un des plus nobles, l'un des plus créatifs qui soit, la chronique. Beaucoup d'écrivains s'y sont essayés, de Maupassant à Duras, de Hugo à Camus. À leur suite, Natacha Appana et Daniel Rondeau donnent dans le genre. Ils sont nos invités aujourd'hui. Bonjour Natacha Appana.
Bonjour.
Vous êtes l'auteur du Dernier Frère, de Tropique de la Violence, et vous publiez aujourd'hui Une année lumière. Vos chroniques parues dans le journal La Croix durant l'année 2017. Vous y parlez de votre enfance, de la question que l'on vous pose toujours sur le fait que vous ayez choisi d'écrire en langue française, de ce que c'est aussi que d'être une femme en littérature, de la condescendance que vous ressentez parfois de la part de certains. Qu'est-ce que c'est que d'aller dans un salon du livre à Paris, porte de Versailles, à bord du même train que des jeunes filles déguisées en Hermione, la copine magicienne d'Harry Potter, qui vont, elles, au salon manga et sci-fi show. Il y a aussi une lettre au président de la République sur les Kwasa Kwasa, ces fameuses barques qui font souvent naufrage au large de Mayotte, entre les Comores et Mayotte. C'est personnel, c'est poétique, ça a été aussi, dites-vous, dans l'avant-propos, une révélation que cet exercice, dans la mesure où vous dites que vous avez eu l'impression de ne plus être seul, comme vous l'aviez jusque-là été dans l'écriture. Est-ce que c'est à cause de cette révélation que vous avez intitulé ce texte « Une année lumière » ? Moins pour dire la distance parcourue par la lumière dans le vide pendant une année julienne, soit environ 10 000 milliards de kilomètres, mais pour parler d'une illumination, de la compréhension de quelque chose que, jusque-là, vous n'aviez peut-être pas rencontré, au fond.
Je crois que c'est surtout la deuxième définition, c'est-à-dire dans le sens de la révélation, mais il y avait aussi dans ce sens où j'avais l'impression que mon travail était éclairé par autre chose. Quand j'avais accepté cette proposition de faire des chroniques, je pensais que j'allais retrouver peut-être des réflexes journalistiques, et en fait, pas du tout.
Oui, parce que vous avez été journaliste. Hein. Alors, pour Le Mauricien, donc l'île Maurice, où vous avez grandi, mais aussi en France.
En France, pour le magazine Géo, voilà. Pour Radio France, de temps en temps, j'ai été pigiste, donc je travaillais là où on voulait bien de moi. Et je pensais que j'allais retrouver ça, mais pas du tout. Je savais ce que je ne voulais pas faire. Je ne voulais pas être dans le commentaire. Je ne voulais pas me dire ou faire comprendre que si on m'avait fait l'honneur de m'offrir une page chaque jeudi dans un quotidien, ce n'est pas parce que je savais tout. Et que j'allais tout expliquer. Au contraire, c'est parce que je ne savais pas et que je m'interrogeais. Je voulais aussi, parce que je lis beaucoup de... Sur le tard, j'ai lu beaucoup de chroniques, notamment des écrivains américaines, dont Cynthia Rankin, dont Maggie Nelson, qui écrivent beaucoup sur ce qui se passe derrière le livre, ce qui se passe derrière l'écrivain, ce qui se passe parfois derrière la plume. Et c'est un exercice que j'ai toujours voulu faire, mais jamais de façon assumée. Alors peut-être que là, je me suis dit, c'était peut-être la manière détournée de le faire.
Bonjour Daniel Rondeau.
Bonjour Christophe.
Grand prix du roman de l'Académie française pour Mécanique du chaos. Vous êtes l'auteur de dizaines de romans, récits de voyage, essais, j'en cite quelques-uns, L'enthousiasme sur votre passé Mao.
D'établi à l'usine.
Exactement. Ouais. Ou encore Dans la marche du temps, Alexandrie, qui est l'un de ces portraits de ville aussi que vous faites. Chronique du Liban rebelle, voilà, au moment de la guerre du Liban, puisque vous êtes toujours un grand connaisseur de la situation politique de ce pays. Je disais donc membre de la gauche prolétarienne, vous avez été aussi journaliste et ambassadeur à Malte, donc plusieurs vies chez Daniel Rondeau, avant de publier donc aujourd'hui chez Grasset La raison et le cœur, qui rassemble des textes politiques et littéraires, certains inédits, écrits entre 1984 et aujourd'hui. Ils sont précédés d'une longue introduction qui est belle introduction, qui soulève pas mal de questions justement sur cette activité d'écrivain journaliste. Et ces textes nous promènent du Liban à Sarajevo, de Solzhenitsyn à Malraux, des souvenirs de l'usine aussi, où où vous fûtes établi, comme vous l'avez dit, avant de sortir du gauchisme pour des engagements moins rouges, d'une église à l'autre, de Mao à Saint-Benoît, que vous citez. Il est question aussi d'Europe dans ce livre, et c'est très important en ce moment. Et d'ailleurs, avec ce livre, Daniel Rondeau, vous voulez nous en persuader, parce que vous le citez. On est un petit peu dans la droite ligne de ce que pensait Camus. On sent que c'est lui qui sert de fil directeur. Vous le citez. Il y a pour l'homme une action et une pensée possible au niveau moyen qui est le sien. Et donc, l'écrivain étant un homme, pour l'écrivain, il y aurait aussi une action et une pensée possible. Est-ce que ce livre, il est là pour montrer aussi qu'à l'heure des réseaux sociaux dont vous parlez, de l'immédiateté, eh bien, il y a quand même une place pour l'écrivain et pour ce mot que plus beaucoup de gens osent prononcer aujourd'hui et qui se trouve être dans votre sous-titre. C'est le mot engagement, puisque le sous-titre de La raison et le cœur, c'est littérature, politique, engagement. C'est quoi l'engagement pour un écrivain au XXIe siècle, Daniel Rondeau?
Mais si vous voulez, moi, vous avez rappelé ma jeunesse. J'ai 20 ans. Je pars travailler 4 ans à l'usine. Ce sera pour moi des années très heureuses.
L'enthousiasme procède de ce livre-là.
Oui, où je vais m'apercevoir que j'ai une sorte de grâce qui m'a été donnée, je n'y suis pour rien, c'est de pouvoir m'accorder à tous les hommes qui sont dans mon chantier, qui sont des gens très différents, des vieux ouvriers, des jeunes ouvriers, des ouvriers arabes.
Alors vous dites grâce, vous y allez fort.
Non, mais c'est, comment dire, c'est un don, c'est quelque chose qui est donné. Je passe des années très heureuses à l'usine, et en même temps, mes camarades et moi, nous en percevons que nous allons quand même dans le mur, puisque, comme le répète Camus, que vous avez cité, il ne faut pas chercher l'absolu. Nous étions des chercheurs d'absolu. C'était l'absolu de nos 20 ans. Nous voulions changer le monde en partant de la cité et changer le monde tout entier en partant de la cité et de l'usine. Et en fait, il ne faut pas chercher l'absolu dans la politique parce que nous allions droit dans le mur. Nous allions vers l'inquisition. Et donc, nous renonçons à ce que nous sommes, nous mettons la clé sous la porte, et à ce moment-là, on rentre dans une phase, en tout cas pour moi, mais pour beaucoup de mes camarades aussi, nous rentrons dans une phase de désenchantement. C'est pas évident d'avoir pensé qu'on portait l'histoire du monde sur ses épaules à 20 ans pendant 4 ans, et de dire on ferme la boutique, on met la clé de la révolution sous le paillasson, débrouillez-vous. Et à ce moment-là, je vais retrouver petit à petit ma vocation initiale, qui était une vocation d'écrivain. Je vais retrouver la littérature, je vais retrouver la musique, on en parlera peut-être tout à l'heure. Et je ne vais pas renoncer à comprendre le monde où je vis. Et je ne vais pas renoncer non plus à m'insurger contre des situations qui me semblent inacceptables. Donc petit à petit, ça s'est pas fait du jour au lendemain. Ça m'a pris plusieurs années. Et petit à petit, je vais décider, quand je pense que c'est nécessaire, je vais intervenir et que la seule façon que j'ai d'intervenir, c'est simplement d'écrire un texte, la plume à la main.
Natacha Appana, le mot engagement dont on parlait avec Daniel Rondeau me fait penser, moi, à un autre mot, qui est le mot engagisme, et qui se rapporte à quelque chose que vos grands-parents, vos arrière-grands-parents indiens ont bien connu, ce système de l'engagisme.
C'est un système, de travail, ce n'était pas un système de traite, hein, j'essaye toujours de ne pas comparer l'histoire, comparer les mémoires. C'était après l'abolition de l'esclavage en 1835 pour l'île Maurice, les champs de canne se sont retrouvés vides. Et ça a été le cas pour l'île Maurice, comme ça a été le cas pour plusieurs îles des Antilles et de la Caraïbe. Et l'Inde étant colonie britannique à cette époque. Et donc on a fait venir des millions d'Indiens dans toutes ces îles-là pour remplacer les esclaves dans les champs. On appelait ça l'engagisme et mes arrière-grands-parents étaient des engagés indiens.
Justement, Natacha Appana, Daniel Rondeau l'a parlé de l'engagement. Vous dites que vos arrière-grands-parents étaient des engagés. Cette notion d'engagement pour l'écrivain, est-ce que c'est quelque chose qui vous parle? Parce que c'est vrai que plus personne n'ose se définir. Enfin, c'est rare. Il y a plus que vous, Daniel Rondeau. Écrivain engagé, quoi.
Et en même temps, mon engagement aujourd'hui et depuis des années, je suis engagé dans mes livres et dans l'écriture.
Je dirais absolument la même phrase, d'autant que moi j'ai été très surprise des engagements qu'on a voulu me donner, m'accorder, me coller, en me disant, puisque j'étais une femme, puisque j'étais de couleur, puisque j'étais de cette partie du monde-là, puisque mon premier texte parle de ces hommes et de ces femmes qui sont partis d'Inde, donc forcément je devais penser comme cela, je devais m'engager vers cela. Et moi, très tôt, très vite, parce que j'ai lu Camus, parce que j'ai lu également des Indiens, des Africains, je voulais m'engager dans une histoire, dans un personnage, dans la sincérité de ce que ce personnage-là dit à ce moment
plutôt donné. Plutôt dans la fiction, enfin, s'engager dans la fiction.
Oui, parce que la fiction a un pouvoir évocateur tellement puissant. Ce que je connais du monde, moi, petite fille vivant à l'île Maurice, c'est par les livres. Ce n'est pas parce que mes parents m'ont appris des choses, c'est parce que je me suis plongée dans les livres.
Il y a un mot que j'aime beaucoup de ce que vient de dire Natacha, c'est sincérité. Oui. Forcément, depuis mes 20 ans, j'ai changé, mes idées ont changé. J'espère que je suis resté fidèle à deux choses, l'enthousiasme de cette époque et la sincérité de cette époque. Et je crois que la sincérité de l'écrivain, quand il est en train de travailler, c'est quelque chose de fondamental.
Oui, et puis à l'idée de cet établi, moi, que j'aime beaucoup. Ouais. Parce que chaque matin, on se lève, on a quotidien, la famille, mais il y a notre établi à nous.
Oui, Victor Hugo disait « l'art est un courage ». Quand on parle de l'inspiration, on parlait de l'inspiration des écrivains, comment on travaille. Bon, Flaubert l'explique, le dit aussi, c'est-à-dire quand il dit « personne ne peut imaginer la somme de souffrance et de travail qu'il m'a, il m'a fallu pour ressusciter Carthage » quand il écrit Salammbô, c'est ça. On se met au travail tous les matins.
L'œuvre est une sueur, disait Cocteau.
Oui, exactement,
aussi.
Bien sûr, exactement.
C'est drôle, vous disiez, la Natacha Appana, que tout ce que vous saviez du monde, c'était par la fiction, qui est, et la fiction peut-être aussi un véhicule d'engagement. Ça me fait penser à au premier texte qui ouvre ce recueil de Daniel Rondeau. Mais je sais que vautré sur mon lit, donc là vous êtes tout jeune, paresseux, infatigable, je passais des heures à respirer d'un même souffle cette mêlée lourde et savoureuse. Je convoquais quelques hommes fameux avec eux, se glissaient dans mon panthéon personnel de petits bourgeois français. Ce que le monde connaît d'immortel, vous parlez de l'espoir et de la première phrase, la charge lente et solennelle de son incipit, un chahut de camions chargés de fusils. Couvrait Madrid.
Dans sa nuit d'été.
Voilà, exactement. Alors, juste une...
Non, mais la fiction aussi, elle sert à raconter la réalité. C'est-à-dire, on parle de Camus. Camus s'en aperçoit pendant la guerre d'Algérie. Il ne peut pas exprimer la complexité de sa situation personnelle et il ne peut pas expliquer la complexité du drame de la tragédie algérienne parce que ça devient inaudible. C'est inaudible parce que les gens sont tellement engagés dans la haine que la vérité devient inaccessible. Or, la fiction sert à ça. Christophe, vous parliez tout à l'heure de mon roman La mécanique du chaos. J'ai écrit ce roman aussi, qui est un roman sur la France d'aujourd'hui, parce que j'avais l'impression que on ne pouvait plus en parler, l'expliquer, ça ne servait à rien.
Dans une chronique, c'est-à-dire, c'est ça.
Oui,
il fallait prendre
un
roman.
Dans un texte, je pensais que la fiction nous permet, parce que la fiction, justement, elle mobilise des personnages. Et chaque personnage transporte une vérité extrêmement complexe.
Oui, justement, quelle vérité, de quelle vérité parle-t-on Et c'est dans la fiction qu'on a cette palette vérité.
Et cette complexité.
Exactement.
Mais alors précisément, est-ce que c'est pour ça, parce que quand on lit vos deux recueils, qui sont, encore une fois, je le dis, des recueils de chroniques, donc là, les auteurs de fiction que vous êtes parfois laissent la place à un auteur de chronique, donc avec un autre rapport au temps, un autre rapport au monde que vous voyez. Il n'y a plus de personnages, c'est vraiment la voix de l'écrivain et sa voix nue, j'allais dire. Est-ce que c'est pour ça que vous prenez l'un et l'autre la peine de rédiger un avant-propos assez conséquent, presque pour expliquer pourquoi vous faites un pas de côté justement dans la chronique par rapport à ce qui est, comme si ça n'allait pas de soi au fond, par rapport à ce qui est votre nature, c'est-à-dire d'auteur de fiction? Je répète que l'un comme l'autre, vous avez été journaliste. À Libération, Daniel Rondeau, entre autres, longtemps.
L'Observateur.
Et l'Observateur, et l'Express. Et Natacha Appana, vous disiez, même à Radio France. Du Mauricien à Radio France. Donc, est-ce que c'est pour ça qu'il faut expliquer, comme si ça n'allait pas de soi, ce choix que vous faites de passer là, du côté de la chronique, et de quitter un peu la fiction?
C'est très intéressant, vous pointez peut-être une faiblesse là, parce que moi, je ne me sens pas légitime de parler de moi. Je ne me sens pas légitime que les textes viennent de moi. Et je me suis sentie obligée d'expliquer pourquoi ce recueil-là existait. Bien sûr, les chroniques existaient dans le journal, mais j'avais fait le choix de les réunir. Et je trouvais, alors peut-être que je me trompe, que, alors que ce n'était pas mon but de départ, que toutes ces chroniques étaient réunies sous une certaine mélancolie, sous une certaine douceur de ce que c'est qu'être écrivain et d'être un petit peu à côté, d'avoir fait le pas de côté. Et c'est pour ça, moi, j'avais écrit cet avant-propos, pour expliquer pourquoi ces choses-là existaient, pour expliquer aussi pourquoi ces chroniques étaient si personnelles, parce que ce n'est pas mon habitude.
Oui. Ouais. Et vous, Daniel Rondeau, cette explication aussi que...
Non, l'explication, en même temps, oui, c'est parce qu'il y a forcément un petit peu de prétention. Quand on publie des chroniques qui sont des chroniques, des regards, notre regard porté sur le monde ou sur des gens. Et d'autre part, je voulais aussi, en fait, c'est un dernier texte sur l'actualité. C'est-à-dire, si je le publie, si je l'écris aussi, c'est parce que je pense que il faut parler du monde d'aujourd'hui à tout prix. Vous avez prononcé le mot Europe tout à l'heure. Bon, je pense nous sommes à une période, pour le monde entier d'ailleurs, c'est pas propre à la France ni propre à l'Europe. On voit que la modernité a fabriqué, la modernité technologique aussi a fabriqué, et d'autre part le déracinement, ont fabriqué un monde où il y a beaucoup d'égarés. Et que les gens ne savent plus forcément qui ils sont, où ils habitent, comment ils s'appellent. Et je pensais que pour nous, il y avait une liberté, une certaine idée romanesque de la liberté et de la mesure à réinventer. Le cardinal Lustiger m'avait dit un jour, faites attention, il y a des décollements de rétine comme il y a des décollements de civilisation. On voit bien que le monde nous interroge tous les jours. Le monde nous interroge sur notre façon de vivre, sur notre façon d'élever nos enfants, comment faire. Il nous interroge aussi en tant qu'écrivain. Et je me disais, je pense qu'une certaine idée de la liberté est menacée, qu'il faut retrouver une liberté française. Il n'y aura pas de liberté française sans liberté européenne. Et c'est un peu l'axe de mon introduction. Et j'étais très surpris de voir que j'avais retrouvé un texte de 82 ou 83 qui commence par l'Europe du roman. Et l'Europe de la culture. Et c'est quelque chose de crucial dont on ne parle pas.
Ce qui n'a pas été fait, ouais.
Non, mais on parle des quotas laitiers, on parle de tout, mais on parle pas de la vraie Europe. L'Europe, ce sont nos paysages romanesques, paysages de la peinture.
Elle doit être racontée pour exister.
Oui. En fait. Elle existe, c'est nous.
Et alors, il y a ce rapport autant chronique, évidemment, contient, dans le mot chronique, on a chronos, on a ce rapport au temps, ce rapport à l'actualité. Alors, en vous lisant, il y a des, même si effectivement, on y viendra dans le détail, mais il y a énormément de différences entre vos deux livres, mais il y a quand même ce souci du décalage par rapport au temps des autres, à notre temps. Je vous cite Natacha Apana. Le choix est là, dans le refus de cet ennemi intime niché en nous, qui se déguise en confort, en sécurité, en belles phrases, ce refus des anecdotes qui s'érigent en savoir, ce manque d'endurance dans nos batailles dont nous faisons état, cet entre-soi d'idées et d'amis qui nous ressemblent. Ça me fait exactement penser à la description des sphères réseaux sociaux aujourd'hui, c'est-à-dire les gens, en gros, un partage d'opinion entre gens qui pensent la même chose. Et je vous cite symétriquement Daniel Rondeau. La vérité paraît pourtant plus énigmatique et fugitive que jamais, d'autant que l'intelligence d'aujourd'hui se complaît à mettre en pièce l'intelligence d'hier, comme si nous étions toujours impatients d'inventer une nouvelle formule de la table rase. Notre passé, criblé au laser de l'anachronisme permanent, crédité de nombreux crimes, est déféré au tribunal du présent, qui en destitue les héros et ordonne le déboulonnage de nos statues. Ce double mouvement connexion-déconstruction fonctionne comme une machine à fabriquer des égarés. Et je me suis demandé si finalement l'engagement dont nous parlons, est-ce qu'il ne pouvait pas être défini comme le simple fait de ne pas vouloir être complètement de son temps, parce qu'il s'agit aussi d'aller à contre-courant des idées de son temps.
Je ne sais pas si ça peut être une intention. C'est quelque chose, moi, que j'ai presque découvert au fur et à mesure, que je ne voulais pas être comme ça. Voilà, je refusais d'être emportée par la foule, je refusais ça, je voulais faire ce pas de côté. Mais si vous m'aviez demandé ça il y a 20 ans, j'aurais pas dit ça, je ne le savais pas.
Daniel Rondeau.
Mais je pense que, en tout cas, pour Natacha et pour moi, je pense qu'il y a deux similitudes. je pense que nous sommes tous les deux dans une certaine position oblique par rapport au monde. On ne l'a pas cherché. Elle est là. L'autre chose, c'est, et j'étais très heureux de lire un de ces textes sur l'empathie. Parce que là, je me suis dit, bon, on a vraiment, il y a quelque chose entre nous qu'on ne savait pas. Natacha dit, écrit, j'écris aussi au nom de ceux qui ne sont pas puissants, au nom des outsiders et au nom des oubliés, si je vous cite bien de mémoire.
Semer l'empathie, hein, c'est le titre du texte.
En fait, moi, quand je commence à écrire, moi, j'avais fui la politique et l'absolu de la politique. Quand je recommence à écrire, quand je recommence, c'est en Pologne, au moment de Solidarnosc, ensuite c'est le Liban. Bon, je n'interviens, enfin, Christophe Onodibio, vous savez bien que je n'interviens pas tous les soirs pour commenter l'actualité. Justement, on n'est pas dans le commentaire. J'interviens quand je pense que c'est nécessaire que moi, personne ne parle, il faut que quelqu'un y aille, remonte ses manches, il faut y aller. Bon, à ce moment-là, j'y vais, en sachant que ça aura peut-être peu de conséquences, mais on ne sait jamais. On sème l'empathie.
On continue avec vous, Natacha Appana, et vous, Daniel Rondeau, à parler de cette activité, cette vocation de chroniqueur à côté de cette vocation d'écrivain, mais qui est aussi une autre facette du travail de l'écrivain. Daniel Rondeau, vous publiez La raison et le cœur chez Grasset. Natacha Appana, Une année lumière chez Gallimard. On va commencer avec vous, Daniel Rondeau. On écoute d'abord votre choix musical. Vous vouliez parler de musique, c'est le moment. Vous avez choisi le concerto brandebourgeois numéro 6, qui est interprété par le Zeffiro Baroque Orchestra, dirigé par Alfredo Bernardini.
Le temps des écrivains, Christophe Onodibio.
Concerto brandebourgeois numéro 6 de Bach, évidemment interprété par le Zeffiro Baroque Orchestra, dirigé par Alfredo Bernardini. C'est le choix de Daniel Rondeau qui publie La raison et le cœur, littérature politique, engagement, un recueil de chroniques des années 80 à aujourd'hui, ou presque. Daniel Rondeau, pourquoi ce choix musical d'abord ?
Justement, quand je disais que j'avais quitté l'absolu de la politique, je retrouve ma vocation d'écrivain. Naturellement, dans l'absolu de la politique, pendant 4 ans, je n'ai
pas
lu...
c'était les années d'usine. Hein,
oui, les années d'usine. Hein. Je n'ai pas lu un livre. Je n'ai pas écrit une ligne, naturellement. Je n'ai pas lu un livre. Je n'ai jamais écouté de musique classique. J'étais un fils d'instituteur. Mes parents m'avaient fait apprendre le violon. Donc, j'avais une petite pratique musicale assez bien modeste. Mais j'avais un rapport quand même avec la musique classique. Et en fait, pendant ces 4 années, nous avions voulu brûler tout ce qui était cette culture bourgeoise, entre guillemets. Et je m'aperçois que je vais passer ma vie à essayer de sauver tout ce que nous avions voulu brûler, c'est-à-dire les écrivains d'abord. Pendant plusieurs années, je vais essayer de relire tout ce que, et de lire, de découvrir vraiment la littérature, mais je vais en même temps écouter de la musique toute la journée. Je commence toutes mes journées avec Jean-Sébastien Bach, Schubert en après-midi, le soir Mozart, et puis après je vagabonde autour de ces trois grands piliers de la musique, et je rencontre beaucoup de musiciens. Je me passionne pour l'opéra, je rencontre des chanteurs, je parle avec eux. Et c'est vraiment pour cela, c'est-à-dire pour moi c'était le
Johnny Hallyday non plus.
Non mais Johnny Hallyday, ça c'est autre chose, il était là dans l'usine, lui. C'était l'idole, le jeune dieu des bas quartiers, donc j'avais ce lien avec lui. Mais là, je retrouve autre chose. Et j'ai commencé par écrire en écoutant de la musique toute la journée. J'ai cessé aujourd'hui, parce qu'en fait, je suis tellement obsédé. Je n'essaie d'écouter que la musique, entre guillemets, de mes mots, pour voir si, comment ça sonne. Donc tout parasite me gêne.
Vous êtes pareil, Natacha Appanard, je suppose, sur ça. On n'écoute pas de la musique en écrivant.
Non, je n'écoute pas de musique en écrivant. C'est toujours quelque chose à côté que je fais. Et moi, je n'ai pas du tout de culture musicale. C'est quelque chose que je regrette, d'ailleurs.
Et il n'est pas trop tard, Natacha Appanard.
Non, pas du tout.
Daniel Rondeau va vous donner
j'ai une fille qui est musicienne.
Ah,
elle joue de la harpe.
D'ailleurs, nous avons choisi de la harpe, Natacha Appanard, tout à l'heure. Voilà, c'était votre choix musical, de la harpe. Très bien. Daniel Rondeau, je reparle de La raison et le cœur, donc ce recueil de chroniques, littérature, politique, engagement. Je rappelle que vous avez été donc à l'usine, très jeune, vous étiez engagé du côté de la gauche prolétarienne, vous avez été ensuite journaliste, écrivain toujours, ambassadeur à Malte.
À
l'UNESCO. Et donc ces textes qui sont rassemblés aujourd'hui, ils ont été écrits entre 1984 et aujourd'hui. Alors, je le disais tout à l'heure, on va du Liban à Sarajevo, à l'inaction justement du personnel politique face à cette tragédie au cœur de l'Europe, qui peut-être pèse encore aujourd'hui d'ailleurs sur les épaules de cette Europe qui vacille. Le souvenir de l'usine aussi où vous fûtes établi. On est, avec ce livre, on en parlait tout à l'heure, en tout cas on sent que c'est le tuteur Camus, qui disait qu'il y a pour l'homme en action une pensée possible au niveau moyen qui est le sien. Je voulais juste vous poser une question parce que une de vos phrases m'a troublé, Daniel Rondeau. C'est dans un entretien avec Vaclav Havel que vous publiez dans ce livre. Alors même que vous sous-titrez ce livre « Littérature, politique, engagement », vous dites « La figure de l'intellectuel engagé me paraît, hélas, bien anachronique. » Oui, on parle des chroniques, anachronique. « Car elle a été pervertie par un double mensonge. » Et vous continuez. « Le silence n'est-il pas le meilleur des engagements ?» Là, ça va à l'encontre de tout ce que vous avez exprimé.
Oui, en même temps, vous remarquerez que je suis relativement silencieux, que ces chroniques, ces textes, ils s'échelonnent sur 40 ans, et que je les donne avec une certaine mesure, et que, en fait, naturellement, j'étais, comme beaucoup de gens, j'étais la figure de l'engagement, elle est symbolisée par Albert Camus, naturellement. C'est un écrivain qui va s'engager pendant la résistance, combat, qui va s'engager pendant la guerre d'Algérie, et qui en même temps, son engagement n'est jamais loin de son écriture et de ses livres. C'est la même chose. Bon. Or, on sait bien qu'il y a eu une petite dérive d'un intellectuel engagé, qui était surtout engagé dans des combats médiatiques qui leur permettaient de sculpter leur propre statut. Je ne citerai personne, naturellement, je suis pas là pour donner des leçons. Mais bon, moi, j'ai voulu, à partir de ce moment-là, m'écarter de cette fantaisie. Il y a une phrase de Solzhenitsyn que j'aime beaucoup, il parle de l'Europe, qui est aussi un des axes du livre.
Qu'on célèbre en ce moment, Solzhenitsyn.
Oui, qu'on célèbre et que j'ai rencontré. J'ai passé une journée avec lui.
Dans le Vermont.
Dans le Vermont, oui. Et il a une phrase absolument formidable sur l'Europe. Il dit qu'il faudrait réconcilier quand même l'alliance de l'intelligence, du spirituel et du savoir pour l'Europe qui nous constitue. Et en même temps, il dit qu'il ne faut pas laisser l'Europe aux acrobaties intellectuelles de la tribu instruite. Je trouve que c'est assez magnifique, les acrobaties, parce qu'on a beaucoup...
Est-ce que vous faites partie de la tribu instruite ou pas, Daniel Rondeau?
Non, j'essaie de me tenir à l'écart des salons de la tribu instruite, mais...
C'est qui la tribu instruite? Commentateurs? Non, mais sans donner
non, mais
de
y a
nom,
des gens
il entendait quoi, Solzhenitsyn?
Non, mais il y a des gens qui sont des érudits, parfois, des gens qui sont au fait des choses, mais qui s'engagent dans des fausses polémiques, qui sont capables de susciter une polémique par semaine, de s'engager dans des combats frontaux qui semblent des combats à mort et qui, en fait, qui ne sont que du paraître. Donc,
Je voudrais qu'on vous entende lire un extrait. Alors, j'ai choisi justement un extrait de cette introduction, justement, où vous parlez aussi de l'établi. Je voudrais que vous nous parliez un peu de ce rapport entre le Daniel Rondeau de fiction, écrivain de fiction, et puis le Daniel Rondeau chroniqueur. Est-ce que c'est le même? Est-ce que c'est une autre facette qui se livre? Ou au fond, est-ce qu'il s'agit que d'un support, d'une façon d'ordonner les mots, d'une voix qui change? Mais on vous écoute d'abord.
Il n'existe pas de manuel de survie pour ceux qui font l'expérience du désenchantement. Il n'est pas évident d'accepter de ne plus croire au progrès et de préférer une modeste espérance de bonheur à la cavale d'un messianisme politique. Dans le brouillard qui suivit notre autodissolution, ma vocation d'écrivain avait refait surface le jour où j'avais poussé la porte d'une librairie après des années d'abstinence. J'ai décidé que si je ne pouvais pas changer le monde, j'allais au moins tenter de le raconter. Dès cet instant, je me suis préparé à passer ma vie sur l'arche de papier que j'allais m'employer à construire. Mon premier livre, Chagrin Lorrain, traitait de l'histoire des ouvriers lorrains. J'avais quitté l'usine, mais pas tout à fait mes camarades. Sans le vouloir, je m'étais bricolé un sas de décompression et un mode de survie dans un mode imparfait. Littérature, notre ciel. Écrire ne me séparait de personne et me donnait les moyens d'inventer une liberté toujours à conquérir, sans offenser celle des autres. Il me restait à renouer avec une part de moi-même que j'avais voulu immoler sur l'autel de la condition ouvrière.
Merci Daniel Rondeau. Donc extrait de la Raison et le cœur qui paraît chez Grasset, donc recueil de ses chroniques. Il y en a une cinquantaine de chroniques, donc sur 40 ans. Est-ce que, moi je connaissais l'expression « le cœur a ses raisons que la raison ignore », vous prenez tout?
Oui, je pense que nous avons, quand on parle de la tribu instruite, elle est capable de raisonner, toujours. Mais je crois que le cœur nous dicte aussi notre façon d'écrire et notre façon de nous accorder aux autres. Quand j'ai dit tout à l'heure, pour commencer, Christophe, vous aviez l'air un peu surpris en disant « je m'étais aperçu que je pouvais m'accorder à tous les gens qui étaient sur mon chantier ». Et en fait, pour moi, c'est un cadeau.
Oui, parce que vous parliez de grâce, c'est
oui,
ça, jouer ça qui est de...
Non, mais c'est un cadeau que l'usine m'a... C'est un cadeau. Quand je dis « je suis un petit con de petit bourgeois français » qui ne connaît rien à la vie ni au monde, qu'à la prétention de changer la vie, d'aller à l'usine, et je m'aperçois d'une chose en tout cas, c'est que je peux m'accorder avec des gens que je ne connais pas, qui sont des ouvriers français, des vieux ouvriers, des jeunes ouvriers, des ouvriers arabes. Et je crois que ce cadeau que m'a fait l'usine, il va être mon passeport pour toute la vie, quand j'arrive à Beyrouth, quand j'arrive en Bosnie, quand j'arrive... À chaque fois, j'arrive dans des endroits que je ne connais pas, et je vais immédiatement trouver des amis. Je crois que c'est l'importance du cœur aussi, une façon d'écrire. Don Mabillon, qui est l'homme qui a inventé la façon d'écrire l'histoire à la française au XVIIe, disait que pour écrire l'histoire, il avait écrit un petit précis comment les règles de l'historien. Et il parlait justement de l'importance du cœur et de l'empathie.
Dont parlait, oui, Natacha Panin.
Et de l'empathie. Oui, oui. C'est-à-dire qu'il faut établir un contact avec les autres. Ce contact, il s'établit aussi par le cœur.
Mais comment le faire passer, justement, puisque tout à l'heure, on parlait de l'empathie avec Natacha Apana, où on parlait aussi des personnages qui sont des merveilleux véhicules pour propager une émotion. Quand on écrit une chronique et qu'on n'est pas dans la fiction, il faut aussi semer l'empathie, selon l'expression de Natacha Apana.
Oui, bien sûr, on essaie de faire partager. On parlait des oubliés, des sans-voix. Nous, quand nous avons accès à ces sans-voix, quand nous avons la chance de les rencontrer et qu'on veut faire écouter leur voix dans d'autres mondes, dans d'autres cercles que le leur, il faut montrer comment ils sont, comment ils vivent, combien nous les aimons. C'est parce que c'est par notre empathie que nous allons, par notre sincérité aussi, je pense, que nous pouvons faire partager leur sort.
Le mot grandeur que vous citez, alors c'est vrai que vous en parlez au sujet de Malraux, quand le Goncourt récompense la condition humaine. Malraux a ce mot. Il est d'usage, après tout prix littéraire, d'expliquer par quoi et comment le livre qu'on a écrit doit plaire à tous. Je désire qu'il n'y ait aucune équivoque sur le mien. J'ai essayé d'exprimer la seule chose qui me tienne à cœur, et de montrer quelques images de la grandeur humaine, que ceux qui mettent leur passion politique avant le goût de la grandeur, où qu'elle soit, s'écartent d'avance de ce livre qui n'est pas fait pour eux.
C'est assez magnifique, non ?
C'est assez magnifique. Bon. Mais c'est vrai que ce mot de grandeur, c'est comme le mot engagement, en fait. Il est difficile à prononcer aujourd'hui. Est-ce qu'il a de la place encore, ce mot, dans le monde d'aujourd'hui ?
Il a une place essentielle, c'est une place à conquérir. C'est comme notre liberté, c'est comme la noblesse. Quand Albert Camus parle de la France, il dit « La France nous a légué quand même plusieurs siècles de noblesse. Ce sont des noblesses de comportement, c'est une noblesse dans la façon de vivre, de rêver, d'écrire, de penser le monde. Et dans cette noblesse, il y a aussi une part de mesure qui vient de la raison.
Natacha Apana, sur cette idée de grandeur dont parle, vous partagez aussi, vous qui aimez aussi parler des petites choses, est-ce que finalement on peut en parler avec une certaine grandeur ?
Je pense que nous devons à nos personnages, aux histoires que nous racontons, de ne pas les écrire avec dégoût, de les écrire avec tout l'amour et toute l'affection possible. Et à ce moment-là, nous pouvons leur donner toute leur ampleur, tout leur souffle. Et peut-être que de là découlerait la grandeur. Moi, ce que j'aime le plus, c'est quand on me dit « ton personnage est terrible, il est horrible, mais je n'arrive pas à le détester ». Et moi, ça me fait du bien parce que je me dis, d'une certaine façon, quelque chose en lui, que ce soit dans son enfance, que ce soit dans un regard ou dans la façon dont il s'est tenu à ce moment-là, a parlé à ce lecteur-là et lui a fait naître l'empathie, lui a fait dire « Ah, là, il m'a ressemblé » ou « Là, il me ressemble ».
Mais dans la chronique, il ne s'agit plus de personnages, il s'agit de vous. Donc, il faut faire passer la même chose.
Oui, mais ça passe par le soin qu'on met dans les mots. Et c'est pour ça que j'ai trouvé, moi, personnellement, cet exercice difficile, parce que je ne voulais pas que ça soit écrit comme ça, sur le coin d'une table. Je voulais que ça soit aussi un exercice littéraire, que je travaille, que ça soit un travail, que ça soit tous les jours l'établi pour moi aussi.
Le plaisir que l'on prend à vous lire, Natacha, que moi j'ai pris à vous lire.
Merci, Daniel.
Non mais c'est évident. C'est la qualité du texte. C'est le soin que vous avez choisi pour employer des mots. Vous écrivez avec des mots simples et vous faites passer des émotions complexes. Il n'y a rien de plus difficile. C'est très difficile.
Très beau compliment.
Ouais. C'est très difficile de faire une chronique comme l'a fait Natacha. Moi, ce sont des textes que je suis intervenu quand j'en ai marre. J'interviens quand j'en ai marre, j'en peux plus. Je dis j'y vais, j'appelle un journal, je dis ce que vous pourrez. Là, c'est un exercice imposé. Qu'elle a accepté, naturellement, avec plaisir. Mais c'est très compliqué. Et à chaque fois, je trouve qu'elle se débrouille pour faire passer quelque chose de fort. Que ça soit dans son, quand elle est en train de... Elle décide qu'elle va repasser son permis. Hein, parce qu'elle a un permis... elle conduit à gauche, elle a le permis français. Bon. Et elle raconte cette histoire. On suit.
Oui, il y a le choix. En fait, puis il y a une question de choix aussi. C'est-à-dire que vous, c'est exercice imposé, donc on choisit un sujet. Ouais. Vous, Daniel, c'est quand vous, voilà, quand vous n'en pouvez plus.
Ça m'est imposé par les
Établi au Beyrouth. Voilà. Justement, il y a autre chose qui vous rassemble, c'est que vos deux livres sont des ouvrages bibliothèques. Hein. Il y a une énorme convocation d'écrivains importants. John Donne ou Primo Levi pour vous, Natacha Apana. Camus ou Malraux pour vous, Daniel Rondeau. Vous insistez sur la contemporanéité de Chateaubriand. Par exemple, vous dites carrément que c'est notre contemporain. Ouais. Camus, un compagnon pour aujourd'hui. Je voulais vous poser la question, d'ailleurs, à tous les deux. Est-ce que finalement, écrire une chronique aujourd'hui qui s'appuie sur le souvenir de choses que vous avez lues aussi avant d'écrire, est-ce que c'est pas une façon aussi de, à la fois, de révéler ceux dans les traces desquels on marche, ceux avec lesquels on a appris, en fait, à regarder le monde et donc se révéler soi-même, mais par l'intermédiaire de ces guides qu'ont été les écrivains qui vous ont précédé.
Dans mon quotidien, je fais constamment appel à eux, parce que finalement, je ne sais écrire que parce que je les ai lus, et je ne sais regarder que parce que j'ai lu ce qu'ils avaient eux regardé ou ce qu'ils avaient eux écrit. Et je trouvais que c'était un espace où il était tellement agréable de reparler de poésie, de reparler de cette phrase-là quand on avait 15 ans et qui nous marque toujours. Aujourd'hui, on le fait peu dans la fiction. en réalité.
Oui.
La chronique est ce genre-là, vous avez parlé d'un genre au départ, mais c'est aussi un espace où on peut le faire.
C'est d'autant plus vrai chez vous, Daniel Rondeau, que même quand on est au cœur des combats, à Beyrouth sous les bombes, quand vous êtes avec les migrants, quand vous êtes avec un certain nombre de personnalités politiques à essayer de les agiter, etc., c'est finalement toujours, il y a les événements, mais c'est toujours la littérature qui s'invite, quoi, le souvenir des grands que vous avez lus, comme disait Natacha.
Non, mais ce sont des... Bon, j'avais titré Camus un compagnon pour aujourd'hui. Sincèrement, c'est pour moi un compagnon essentiel. On peut le relire à tout instant, d'ailleurs. On est frappé par la force de l'écrivain. C'est ça qui me... Et en même temps, par cette forme de sagesse et de révolte qu'il arrive à combiner.
Oui, mais il n'y a pas que Camus. C'est une vraie bibliothèque, en fait. Ils sont tous, tout ça, tous les grands sont là. On sent que même quand vous êtes à Beyrouth, vous pensez à Chateaubriand, en fait.
Non, mais Chateaubriand, il m'accompagne. Les mémoires d'outre-tombe sont sur mon bureau en permanence, ne me quitte pas. Je pense souvent à lui, je leur lis très fréquemment. Quand il écrit cette phrase, qu'il faut bien comprendre, sur l'égalité, en fait, il pense à l'égalitarisme, hein, c'est ça, l'égalitarisme absolu que nous avons.
Quelle phrase, Daniel Rondeau ?
Que je vais citer. Oui. Cette phrase, il dit, il écrit, donc en son temps, l'égalité est la mère de tous les maux, c'est la mère du despotisme. Immédiatement, il est visionnaire, c'est-à-dire il peut penser à la fois aux camps de concentration soviétique, au goulag, aux camps de concentration allemand, où on va égaliser tout le monde dans les camps.
Dans le néant.
Donc il dit c'est la mère de tous les despotismes. Donc je pense qu'en tout cas, il nous aide à penser. On ne pense pas seul. On n'est pas seul. Nous, écrivains, nous écrivons après les autres. On a toujours vécu avec eux. Comme le dit Natacha, on a appris à lire avec eux, on a appris à penser, on a appris la vie dans les romans d'abord, avant de rentrer dans la vie. Donc ce sont des compagnons, pour moi, essentiels, et que je ne veux pas séparer de ce qu'on peut appeler la sphère politique.
Et donc la chronique est aussi le moyen de souffler, parce que vous les publiez aujourd'hui, alors qu'elles ont été écrites parfois il y a très longtemps, il y a 40 ans, c'est aussi souffler sur les braises, mais qui sont aussi les braises de la littérature et de ces grands auteurs qui n'ont cessé de vous accompagner.
Oui, bien sûr. Et comme le combat, je pense, d'aujourd'hui, c'est l'Europe, je pense qu'on ne peut pas penser l'Europe aujourd'hui si on ne pense pas les écrivains européens. Et donc l'Europe... du Finistère occidental jusqu'à la Russie, parce que Tolstoï, Pushkin font partie complètement de notre vie.
Alors, je ne sais pas si on va parler d'Europe, mais en tout cas, on va se diriger, grâce au choix musical de Natacha Apana, vers une partie, un bout du monde aussi de cette Europe. Alan Stivell, suite irlandaise, c'est la harpe dont nous parlions tout à l'heure, Natacha Apana, on écoute.
Le temps des écrivains. Christophe Onodibio. Thank you.
garde un peu la harpe en fond de cette émission du Temps des Écrivains, c'est le choix de Natasha Appana, Alan Stivell, suite irlandaise, donc de là. Pourquoi avoir choisi ce morceau de harpe pour accompagner voilà, cette émission, Natasha Appana? On est avec Daniel Rondeau, très sensible à la harpe.
Oui, bien sûr.
Parce que je crois que jamais je n'aurais pensé un jour avoir tant de plaisir à écouter de la harpe. C'est un instrument que j'ai découvert tard à travers ma fille qui a choisi de jouer de la harpe. C'est une petite harpiste et elle me fait découvrir cet instrument qui est si impressionnant pour moi et si magnifique. Et c'est des sonorités tellement différentes de celles avec lesquelles je suis née, avec lesquelles j'ai grandi. Et pourtant, je pense qu'il y a une sorte de mélange d'admiration, d'innocence, de naïveté quand j'écoute de la harpe.
Vous êtes l'auteur, Natasha Appana, du Dernier Frère, de Tropique de la Violence, et là vous publiez un recueil de chroniques, en fait, donc pas de côté par rapport au roman. Elles sont parues dans le journal La Croix durant l'année 2017. Vous y parlez de votre enfance, vous y parlez du fait d'être un écrivain et d'être une femme. Vous y parlez aussi des barques, les fameuses Kwassa, qui transportent les Comoriens jusqu'à Mayotte et qui souvent s'échouent. Et vous interpellez d'ailleurs le président, c'était déjà Emmanuel Macron, et oui. Qui avait fait une remarque qui vous avait déplu, qui avait déplu à énormément de gens. Vous y parlez de ce que c'est que d'écrire, sur cet établi, un peu comme Daniel Rondeau, qui est l'usine, la petite usine de l'écrivain. C'est très personnel, c'est très poétique. Alors c'est amusant que vous soyez, enfin c'est évidemment pas anodin, mais réunis. C'est que Daniel Rondeau, vous publiez vous des chroniques aussi dans La Raison et le Cœur, mais qui sont à la fois littéraire, mais très très dans le chaos du monde, dans la guerre du Liban à Sarajevo. Vous, Natasha Appana, vous choisissez des petites choses, mais ça correspond assez à cette idée dont parlait Daniel Rondeau tout à l'heure. J'ai décidé que je ne pouvais pas changer le monde, j'allais au moins tenter de le raconter.
Oui, c'est absolument ça. Et je me suis retrouvée devant comme un dilemme quand j'ai accepté cette proposition du journal La Croix. Évidemment, c'était d'écrire, et plus je vieillis et plus écrire 5000 signes par semaine est difficile. Donc il y a déjà ça, cet exercice de l'écriture au quotidien.
Natacha, ça n'a rien à voir avec l'âge. C'est parce que vous êtes de plus en plus exigeante.
Oui, probablement. Et il y a aussi, je pense, d'aller dans un chemin de traverse. Au départ, j'avais l'impression que j'écrivais beaucoup plus instinctivement que maintenant. Il y avait des choses plus inconscientes,
ça où
ça allait très vite. Ouais. Et aujourd'hui, ça ne va pas assez vite.
Alors, on vous écoute, Natasha Appana. J'ai choisi un extrait. On parlait de l'empathie tout à l'heure. Ouais. Semer l'empathie, ouais. Qui est donc le titre d'une de ces chroniques. J'aimerais que vous nous, si vous acceptez, que vous nous lisiez un extrait de Semer l'empathie.
J'ai toujours pensé que le but de mon travail était d'écrire des histoires, mais surtout d'incarner d'autres que moi. Pour faire cela le plus justement possible, il faut faire naître de l'empathie. Une des plus belles choses qu'on m'ait dites à propos d'un personnage d'un de mes romans, un jeune homme appelé Bruce, violent, cruel, manipulateur, doté d'un sens du pouvoir aigu, c'est qu'on n'arrivait pas à le détester. Ce n'est pas qu'on lui trouvait des excuses, mais on lui reconnaissait des failles humaines, des gestes attachants, on se souvenait de l'enfant qu'il avait été. C'est une satisfaction pour moi de réveiller l'empathie chez le lecteur. C'est cette qualité humaine qui nous fait nous mettre à la place d'une autre personne, ressentir ses émotions, ses sentiments, ses expériences. L'empathie aura été quasiment absente dans cette campagne. Le stéréotype l'aura emporté sur le particulier. Les discours auront fait de l'ombrage à la précision du langage. L'imaginaire n'aura pas existé. Pourtant, nous n'arrivons pas là par accident, par hasard, par la faute à pas de chance, n'est-ce pas? Ce sont des années où nous avons regardé ailleurs. C'est la somme de toutes nos petites lâchetés, de nos petits arrangements avec la réalité. C'est une vieille violence qui revient frapper à nos portes. Elle revient régulièrement depuis la nuit des temps, prenant forme nouvelle, nom nouveau, proie nouvelle, et nous devons trouver d'autres formes, comme elle, d'autres façons d'écrire, de partager l'empathie au monde. J'aime écrire et lire la vie des non-puissants, des outsiders, des oubliés de l'histoire. J'aime aussi écrire et lire la vie qui passe parfois comme un ruban gris, sans aspérité, sans couleur, sans saveur. Cette vie sans la vie. J'aime le changement dans les cœurs et dans les têtes. J'aime les enfances ordinaires et les jours extraordinaires.
Merci Natacha Apana. Voilà, c'est Une année lumière, donc c'est votre recueil de chroniques qui paraît chez Gallimard. Merci pour cet extrait. Semer l'empathie, on en parlait. C'est le passage que vous avez cité tout à l'heure, Daniel Rondeau. Voilà. Je voulais juste qu'on parle avec vous. On voit que c'est très politique, hein, au fond, dans le sens le plus noble.
Ouais, bien sûr.
Voilà, c'est parler du monde. C'était à l'occasion d'une campagne présidentielle.
Et on C'était parlait, la campagne voilà. présidentielle. Tout à l'heure, vous avez parlé de la lettre au président Emmanuel Macron. C'est une chronique. En effet, mais je ne voulais pas la faire. C'était très étrange pour moi parce que le président avait fait une blague maladroite sur les Kwasa Kwasa, ce sont des barques. Et après cette blague-là, il avait été filmé à son insu. J'ai reçu des dizaines de messages, d'exhortations à écrire dessus. Vas-y, dis ce que tu penses. Et je me disais, parfois, ces messages venaient de personnes qui n'avaient jamais entendu parler de Kwasa Kwasa d'abord. Donc, qui ne s'intéressait pas du tout à cela. Et ma lettre n'est pas pour lui faire la morale ou quoi que ce soit. Au contraire, ma lettre était pour lui dire merci. Enfin, vous avez mis le mot Kwasa Kwasa à l'ordre du jour. Et pendant une semaine, quand vous faisiez une recherche sur Internet, sur Emmanuel Macron...
Toujours maintenant, j'ai vérifié.
Voilà.
En vous lisant, j'ai vérifié.
Il y avait, il y a Emmanuel Macron, Kwasa Kwasa. Et je me disais que c'était pour lui l'occasion de briser justement ce plafond de verre, de faire enfin quelque chose.
Il y a une chose qui vous partage, hein, c'est que pour vous, Natacha Apana, cette chronique, c'est aussi un moyen de parler des femmes, alors autrement que par la fiction. Et il y a un moment très intéressant de ces chroniques où vous parlez de la charge mentale féminine et ses conséquences dans l'écriture, qui rappellent en fait les réflexions que Virginia Woolf avait déjà dans A Room of One's Own, qu'on traduit par une chambre à soi, mais Marie Dariussec a retraduit room, c'est pas une chambre, hein, c'est un lieu aussi, un espace à soi. Et de mettre déjà la femme dans la chambre, c'était déjà vouloir la consigner finalement dans un espace stéréotypé. Vous parlez encore une fois du concret. En gros, écrire pour une femme, c'est beaucoup plus compliqué qu'écrire pour un homme. C'est aussi ces petites choses qui donnent tout le sel de vos chroniques. Quelques données que j'ai glanées ça et là. Flannery O'Connor, Virginia Woolf, Catherine Mansfield, Simone de Beauvoir, pas d'enfants. Toni Morrison, deux enfants, a publié son premier roman à 39 ans. Penelope Fitzgerald, trois enfants, a publié son premier roman à 60 ans. Sahul Bello, plusieurs enfants, plusieurs romans. John Updike, plusieurs enfants, plusieurs romans. Bien sûr, cela ne prouve rien, mais ce n'est pas anodin non plus. Voilà. C'est aussi ça, ces chroniques. C'est-à-dire qu'on est finalement, c'est drôle, parce que la guerre, le Liban, les problèmes, le chaos du monde, et un autre chaos du monde aussi, une inégalité qui lui répond.
Oui, c'est une inégalité sournoise. C'est quelque chose que j'ai ressenti tard, parce que quand j'ai commencé à écrire, j'étais célibataire, j'avais pas d'enfant, je pouvais écrire trois jours de suite en mangeant trois carrés de chocolat, c'était pas grave. Aujourd'hui, non. Aujourd'hui, on a des enfants, on a des choses à faire. Et il y a toute cette occupation intime, c'est toutes ces choses qui viennent parfois, et peut-être parce que moi, je n'ai pas assez de force pour compartimenter. Et je me rends compte que quand je parle à mes autres camarades, c'est des choses dont on parle en chuchotant. Qu'est-ce que tu as fait des enfants?
Garde les enfants.
Combien tu en as? Et alors, quand est-ce que tu écris? Comment tu arrives à écrire?
C'est pareil pour les pères aujourd'hui. Daniel Rondeau, quand même. Qu'est-ce que vous répondez à ça?
Non, mais je ne réponds pas. J'écoute avec attention. Je pense que... Moi, j'ai toujours aimé la présence de mes enfants dans la maison quand j'écris. Ils ne me dérangent pas. Ils étaient discrets, mais présents. J'ai toujours été très proche d'eux. Et maintenant que j'ai des petits-enfants, mes petits-enfants ont accès à mon bureau libre. Ils viennent me voir, me posent des questions. C'est une présence qui peut-être me donne un surcroît de force pour écrire, parce qu'on parlait de l'écriture. Sans que c'est une discipline, toute ma vie est organisée, comme la vôtre. Nous vivons dans la discipline.
Oh oui, on est un peu obligé de toute façon.
On est obligé, on n'a pas le choix. Non, mais si on veut être champion, je pense aux boxeurs.
Daniel non, est un grand boxeur.
Non, mais je suis pas un grand boxeur, mais je connais les boxeurs. J'ai écrit un petit livre sur la boxe. Joyce Carol Oates a écrit aussi un livre sur la boxe extraordinaire. La boxe, il faut du courage. Il faut de l'endurance. Il faut du changement de rythme. Bon, le travail de l'écrivain, il est très proche. Il faut les mêmes mobiliser les mêmes qualités. Et en fait, on s'impose une discipline très forte, parce qu'autrement, on n'y arrive pas. Ou on arrive à des choses qui ne nous plairaient pas. Vous êtes d'accord, Natacha ?
Oui, tout à fait. Bon.
Donc, dans cette discipline, la présence des enfants apporte un peu de douceur.
Je voudrais qu'on termine par une question, quelque chose qui vous rassemble encore. C'est pas que je cherche, parfois je cherche la dispute, mais là vraiment, c'est l'unité, voilà, l'unité des deux boxeurs chroniqueurs. Daniel Rondeau, vous avez écrit plusieurs reportages pour dénoncer les conditions des migrants en Méditerranée. Ça fait vraiment partie de votre engagement, notamment quand vous étiez à Malte. Et Natacha, j'ai vu que vous n'aimiez pas, et je pense que ça vous intéressait, Daniel, vous n'aimez pas le mot migrant. Vous l'évitez parce que vous dites, avec ce mot-là, on n'est ni immigrant, ni émigrant. On ne vient plus de quelque part pour aller ailleurs. On est condamné.
Il n'y a plus de préfixe.
En fait, un mouvement. Voilà.
Il n'y a plus de préfixe. Ça veut dire qu'on serait condamné à tourner en rond comme un poisson dans son bocal. Qui on est? Et d'une certaine façon, comme quand on retourne à la langue, à la précision de la langue, le fait de les appeler migrants seulement nous dédouane un petit peu. Voilà. Nous fait nous sentir, ah ben de toute façon, ils sont là, ils vont partir, il faut qu'ils partent.
Et ça, il n'y a que les écrivains pour être aussi attentifs à l'importance du sens des mots et d'un certain ordre aussi, au fond, des choses.
Ouais. Mon premier texte, c'est quand j'étais ambassadeur de France à Malte. Je pense que l'écriture, c'est le premier niveau de l'action aussi. C'est une façon d'agir. Écrire, c'est agir pour nous. Quand j'arrive à Malte, je découvre la situation de ces gens qui tournent dans la mer et qui meurent en mer. Je m'aperçois que ça dure depuis 20 ans. On est en 2008. Et j'essaie d'agir par des canaux ordinaires. Je n'y arrive pas et je décide que puisque je suis écrivain et diplomate, que je vais utiliser l'écriture. Et je publie un texte dans Le Monde de pages qui s'appelait Les Boat People, parce que c'était ça.
Parce que le mot migrant ne vous allait pas non plus.
Non, le mot, on employait des Maltais, employaient illegal immigrants. J'ai pris les boat people. Le travail de l'écrivain, c'est de choisir ses mots. C'est de choisir ses mots à la fois pour des raisons esthétiques, musicales, et à la fois pour des raisons d'efficacité. C'est-à-dire que quand on commence un texte, notre souhait, c'est que le lecteur ne nous quitte pas. Donc il faut une puissance de charme dans les mots. Si cette puissance de charme n'est pas là, le lecteur s'évapore immédiatement.
Natacha Apana.
Oui, je disais que aussi le choix des mots, c'est dans une fiction, c'est par rapport au personnage. Rester dans la sincérité du personnage n'est réussi que quand le choix des mots lui correspond.
Oui. Mais là, on ne parle pas de fiction.
Non, là, on ne parle pas de fiction.
Mais il faut que le mot... Ouais. Traduise le plus exactement possible la vérité. C'est ça. C'est le rapport à la vérité donc, qu'il y a dans les mots aussi.
Oui, bien sûr. Bon. La puissance du mot, mais également, moi je passe beaucoup de temps, et pour ces chroniques-là, parce que évidemment c'est 5000 signes, mais c'est également un espace restreint, pour que chaque mot ait le sens que je voulais qu'il ait. À ce moment donné, puisque c'est dans l'immédiateté, c'est dans un journal, il est lu tout de suite, il est après jeté, peut-être tout de suite, mais est-ce que ce mot-là pourrait être changé à ce moment-là? Non, il ne faut pas. Il faut que ce mot-là soit adéquat, soit juste et soit sincère.
Merci Natacha Apana, merci Daniel Rondeau.
Merci.
Et vos mots ne seront pas jetés car ils sont dans deux livres. Dans deux livres, La raison et le cœur. Daniel Rondeau, c'est chez Grasset. Et Natacha Apana, Une année lumière, c'est chez Gallimard. Merci à vous deux.
Merci. Merci
à toi. Le temps des écrivains, c'est Anne-Catherine Lochard avec la complicité de Joyce Brunet-Jailly. À la réalisation, Jean-Christophe Francis. À la technique, Alain Joubert. Vous pouvez nous suivre et commenter sur Facebook et Twitter, podcaster pendant un an et réécouter pendant une éternité sur franceculture.fr 7h avec Natacha Apana et Daniel Rondeau.